Cette affaire est d'abord l'histoire d'une famille moderne, celle d'une mère célibataire dévouée et d'une jeune fille brillante semblant mener une vie de rêve. Mais quand le malheur les frappe, les enquêteurs doivent démêler un écheveau de mensonges entre deux amants maudits qui aboutit à la trahison ultime. Joan Witt, mère célibataire de 47 ans, considère Eldorado Hills comme la ville idéale pour élever Tyler, sa fille de 14 ans.
Je suis Jeff Lykoff, le shérif du comté d'Eldorado. Joan Witt vivait dans une grande et belle maison, dans un des plus beaux quartiers du comté d'Eldorado. Un secteur très cossu, comptant une majorité de cadres supérieurs.
Joan Witt est une femme très intelligente. Elle a commencé sa carrière comme ingénieure chez IBM avant d'obtenir un poste à la direction des transports d'Eldorado. Elle a aussi un master en métallurgie de l'Université d'État polytechnique de Californie.
Joan venait d'une famille de notables. Son père avait eu beaucoup de succès dans ses affaires et la famille avait de l'argent.
Joan a toujours rêvé de devenir mère. Elle est aux anges quand elle découvre qu'elle attend un bébé. Elle veut élever sa fille toute seule, mais elle sait qu'elle peut compter sur le soutien de son père et de son frère.
Le 18 novembre 1994, Joan met au monde une fille, Tyler Marie. Aidée par son père et son frère, elle endosse parfaitement son rôle de mère célibataire. Elle est comblée par sa nouvelle vie avec Tyler.
Je m'appelle Lisette Souder. Je suis substitute du procureur du comté d'Eldorado. Joan était une mère aimante et attentionnée. Tyler était toute sa vie. Il n'y avait rien de plus important à ses yeux que d'assurer sa sécurité et de la rendre la plus heureuse possible.
Tyler mène une existence privilégiée. Elle a grandi dans une immense maison avec une piscine. Elle est allée au Mexique et en Jamaïque. Elle a pris des cours d'équitation, des cours de musique, des cours de piano.
Au début de l'adolescence, sa personnalité commence à s'affirmer. C'est une jeune fille brillante, comme sa mère, avec un avenir prometteur devant elle.
Elle est belle, elle se fait facilement des amis. Elle a une très forte personnalité.
Je m'appelle Dylan Heimbrook. J'ai rencontré Tyler au centre communautaire où on traînait avec les copains. Elle y venait tous les jours. Elle était très jeune, mais elle s'est vite intégrée. Elle faisait plus que son âge. C'était une jolie fille qui venait d'un milieu aisé. Sa mère et elle, elles avaient la belle vie.
Joan et Tyler ont tout pour elle. Et les horaires de Joan sont suffisamment flexibles pour lui permettre de passer du temps avec sa fille.
Un vendredi après-midi, Joan n'est pas venue travailler. Ça ne lui ressemblait pas. Elle n'avait pas l'habitude de s'absenter sans prévenir. Après avoir essayé de l'appeler, ses collègues sont passés chez elle et ils ont toqué à la porte. En vain. Ils se sont dit qu'elle était peut-être partie quelque part avec Tyler.
Le lundi 15 juin 2009, Joan est toujours absente. Ses collègues de travail commencent à être inquiets.
Son chef a alors demandé à la police de procéder à une visite de contrôle.
On a envoyé deux adjoints chez Joan. Les portes étaient fermées à clé. Tout semblait normal. Ils ont fait le tour de la maison sans rien remarquer d'inhabituel.
Il n'y avait aucun signe de cambriolage ni d'effraction.
Par la fenêtre du garage, les policiers voient la Cadillac blanche de Joan et un SUV. Si elle a quitté la maison, c'est donc forcément avec quelqu'un d'autre.
Les adjoints ont réussi à s'introduire dans la maison par le côté. Ils ont monté l'escalier jusqu'à la suite parentale. Ils ont aussitôt découvert une femme partiellement allongée sur le lit. Une couverture était posée sur elle. Elle ne bougeait pas, mais il y avait beaucoup de sang. Ils sont ressortis de la résidence, ils l'ont fermée et ils ont attendu notre arrivée.
Je suis le lieutenant Mike Lansing. Ce jour-là, j'étais de service et je me suis immédiatement rendu sur les lieux. Une fois sur place, on a bouclé tout le secteur. On est entré dans la maison par la porte principale. C'était plongé dans l'obscurité, mais tout semblait en ordre. Je suis entré dans la suite parentale, et c'est là que j'ai vu le corps allongé sur le lit. C'était la seule pièce qui avait été dérangée dans la maison.
Il y avait beaucoup de sang. Quand on arrive sur une scène de crime, ça fait toujours un choc. Il y avait de multiples plaies perforantes, des trous dans son t-shirt et des coups de couteau au cou et au niveau des épaules.
La blessure la plus impressionnante était une entaille béante au cou, visiblement faite avec une arme blanche. On avait utilisé un instrument aiguisé pour lui couper la gorge. On connaissait la description de Joanne Witt. On avait les renseignements de base. Elle était censée être au travail et elle avait manifestement été assassinée chez elle.
Il n'y a pas beaucoup d'homicides à Eldorado Hills. J'ai dû prendre en charge une demi-douzaine d'enquêtes pour homicide. Et celle-ci était de loin la plus violente.
La scène de crime était sanglante. C'était vraiment horrible. Elle restera hélas gravée à tout jamais dans mon esprit.
L'inspecteur Lansing était expert en morpho-analyse des traces de sang. Il a repéré une trace ensanglantée comme si quelqu'un avait posé un couteau de boucher sur le lit. On est donc descendu à la cuisine.
On a commencé à chercher un gros couteau qui aurait pu servir à tuer Joanne Witt.
On a trouvé un grand couteau de cuisine dans l'évier. Il n'y avait pas de sang dessus, mais c'était une pièce à conviction.
On a aussi trouvé un bloc à couteau. On a photographié tous les couteaux et on les a emportés. L'un d'eux était peut-être l'arme du crime.
L'état du corps et la scène de crime laissaient à penser que Joanne avait été tuée 3 ou 4 jours plus tôt. Pendant qu'on analysait les lieux, un inspecteur nous a annoncé qu'il était déjà venu 2 jours plus tôt pour enquêter sur un autre délit.
Joanne avait signalé un détournement de mineur sur sa fille de 14 ans, Tyler. On savait donc qu'il y avait une adolescente qui aurait dû se trouver dans la maison.
Le temps presse. Tyler est peut-être en danger.
On savait qu'il fallait retrouver Tyler.
Les enquêteurs apprennent que la veille de son meurtre, Joanne Witt, 47 ans, a voulu porter plainte contre Stephen Culver, 19 ans, qu'elle accusait d'avoir eu des rapports sexuels avec Tyler, sa fille de 14 ans.
Ils découvrent que le jeune homme louait une chambre à Joanne depuis 6 mois. Mais sans preuve de rapport sexuel avec l'adolescente, Culver n'a pas pu être interpellé pour détournement de mineur.
Stephen Culver était devenu notre principal suspect. On était très inquiets pour Tyler, qui avait disparu.
Le rapport de police indique qu'environ 6 mois plus tôt, Tyler s'est fait un nouveau groupe d'amis. C'est là qu'elle a rencontré Stephen Culver, un jeune homme de 19 ans surnommé Boston.
On se donnait tous des surnoms. Le mien, c'était Duck. Et on appelait Stephen Culver Boston. Je ne sais pas d'où ça venait. Stephen ne s'entendait pas avec sa famille. Il squattait plus ou moins dans sa voiture ou chez des potes. Jusqu'à ce que Tyler demande à Joanne de le laisser habiter chez elle.
Joanne n'est pas enthousiaste à l'idée d'accueillir Stephen Culver chez elle. Mais Tyler finit par la convaincre en lui disant qu'il est gay et qu'il ne s'intéresse pas à elle. Joanne sait aussi qu'il travaille comme manager chez Rubio's, un restaurant mexicain, tout en suivant des cours à l'université. Finalement, elle a décidé de l'aider.
Ils ont trouvé un arrangement. Il lui rendait des petits services en échange d'une chambre à louer.
Les relations sont cordiales. Ils sortent dîner tous les trois et prennent le petit déjeuner ensemble. Stephen Culver fait le ménage et la vaisselle. Ils s'entendent vraiment bien.
À en croire Joanne, Culver était un locataire idéal. C'est seulement plus tard qu'elle a commencé à soupçonner qu'il se passait quelque chose entre Tyler et lui. Un mois avant le meurtre, elle est entrée dans la chambre de Culver et elle a découvert Tyler toute nue dans la pièce.
À 14 ans, sa fille n'était pas en âge de consentir. C'était donc un délit. Elle l'a signalé et une enquête pour détournement de mineurs a été ouverte.
L'inspecteur chargé de cette enquête remet à ses collègues un enregistrement de son entretien avec Joanne.
En montant à l'étage, j'ai vu la porte de ma fille ouverte. Je ne la voyais nulle part, et la porte de sa chambre à lui était fermée. J'ai toqué à la porte et j'ai entendu du bruit à l'intérieur.
Il ouvre la porte et quand elle demande où est Tyler, il lui dit qu'il n'en sait rien. Joanne regarde dans la chambre et voit un placard légèrement entrouvert.
Alors j'ouvre la porte et je découvre ma fille toute nue.
Joanne veut absolument protéger sa fille de Stephen Culver. C'est un adulte, il a 19 ans.
Après avoir découvert le poteau rose, Joanne met Culver dehors et tente de porter plainte pour détournement de mineur. Mais lorsque la police interroge Tyler, elle prétend que Culver est un ami et que leur relation est purement platonique.
Il se fait appeler Boston ?
Oui.
Comment décrirais-tu ta relation avec Boston ?
C'était comme mon grand frère, on était très proches.
Et qu'est-ce qui a changé ?
J'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, mais j'ai pris conscience qu'il avait 5 ans de plus que moi.
D'accord. Ta mère dit qu'elle vous a surpris dans sa chambre et que tu étais nue.
Non.
Ce n'est pas vrai ?
Non, je le considère comme un grand frère.
Malgré les dénégations de Tyler, les autorités prennent les inquiétudes de Joanne très au sérieux. Peut-être qu'il a manipulé l'adolescente pour lui imposer des relations sexuelles.
Joanne s'inquiète beaucoup pour sa fille. Elle veut faire condamner Stephen Culver pour détournement de mineur. Mais elle n'a aucun moyen de prouver la nature sexuelle de la relation entre les deux jeunes gens.
Le 10 juin, la veille du meurtre, Joanne trouve le journal intime de Tyler. L'adolescente y donne des détails très crus sur les relations qu'elle entretient avec Stephen Culver. C'est assez pour prouver qu'ils ont effectivement eu des relations sexuelles.
Joanne avait menacé Tyler. Elle lui avait dit qu'elle allait donner ce journal à la police et que Stephen serait peut-être arrêté.
J'ai vu Tyler et Stephen la veille et il m'a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il risquait d'aller en prison s'il ne partait pas.
La police a récupéré le journal de Tyler. L'enquête était en cours au moment où Joanne a été tuée. On a presque tout de suite pensé que c'était peut-être le mobile du meurtre et que Culver essayait de s'enfuir.
Ils émettent aussitôt un avis de recherche pour son véhicule.
Parallèlement à cette chasse à l'homme, les autorités s'inquiètent. Stephen Culver a-t-il enlevé Tyler ?
Moins de 24 heures plus tard, le 16 juin, les inspecteurs reçoivent un appel de la police de San Francisco.
La voiture de Stephen Culver vient d'être retrouvée dans une fourrière de San Francisco. Elle a été enlevée dans une zone de stationnement interdit.
L'inspecteur Lansing et moi-même, nous nous sommes rendus à San Francisco pour seconder les policiers qui avaient saisi et immobilisé le véhicule afin de procéder à une analyse.
Dans la voiture de Culver, il trouve un journal.
Lorsqu'ils parcourent le journal, les enquêteurs sont alarmés par ce qu'ils lisent.
Ils ont repéré un passage écrit de la main de Stephen Culver, disant que Joanne causerait sa perte et qu'elle était le plus grand problème dans sa vie.
Il écrit « J'aime Tyler D.S. Mary Witt de tout mon cœur. Et encore, je souffrirai la damnation éternelle juste pour être avec elle. » La lecture du journal semble indiquer que Culver fait une fixation sur l'adolescente, au point de la mettre en danger.
On se demandait où était Tyler Witt.
Lorsque les enquêteurs interrogent les amis de Stephen Culver, ils en viennent rapidement à penser qu'il est possiblement armé et dangereux.
On avait toutes sortes d'armes qui venaient du monde entier. Des poings américains en cuivre, des nunchaku, des sabres. De nous tous, c'est Stephen qui avait la plus grosse collection d'armes. Il en avait plein son coffre.
Les policiers vont voir un autre ami du jeune homme susceptible de les renseigner.
On a localisé Matthew qui travaillait avec Culver chez Rubio's.
Au cours de l'entretien, Matthew a déclaré que Stephen Culver lui avait confié avoir poignardé Joanne au ventre.
Son ami ne veut pas le croire, il lui dit « Tu ferais jamais ça ?» Culver lui répond « Si, je l'ai fait. » Et pour le prouver, il sort un couteau de son sac.
C'est un grand couteau qu'il affirme avoir volé chez Rubio's et qui est couvert de sang.
Culver s'est aussi teint les cheveux en noir, ce qui étonne un peu son ami Matthew, comme s'il voulait changer d'apparence.
Je pense qu'il a d'abord hésité à trahir le secret de Culver. Il ne voulait pas lui causer d'ennui. Matthew nous a aussi révélé que Culver était avec Tyler et qu'ils avaient l'intention d'aller à San Francisco pour se suicider. Après avoir obtenu cette information, on a immédiatement considéré Tyler comme suspecte dans le meurtre de sa mère.
Pour moi, c'était Culver le coupable. Mais il était possible qu'ils aient agi ensemble.
Vu ce qu'ils savent de Stephen Culver, les enquêteurs redoutent d'arriver trop tard et de retrouver les deux jeunes gens morts. Jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils ont pris une chambre à l'Holiday Inn avec la carte de crédit de Culver.
Ils foncent à l'hôtel dans l'espoir d'y trouver les adolescents.
Quand on est entré dans la chambre d'hôtel, il y avait des affaires partout. Des bols de ramen, de céréales, du gâteau au chocolat, mais pas de mort dans la pièce.
On a fouillé la chambre à la recherche d'éléments liés à la scène de crime, mais on n'a pas trouvé le couteau ni rien de ce genre. Ce qu'on a trouvé, c'est de la marijuana, de la cocaïne et de l'ecstasy.
La chambre d'hôtel est saccagée. Il y a du sang, du vomi, ainsi que plusieurs paquets de mort au rat.
Il y avait un message scotché sur le côté de la télé qui disait qu'il voulait trouver un endroit avec une belle vue pour mourir ensemble. C'était un message de suicide. Peut-être avait-il ingéré de la mort au rat.
Notre plus grande crainte, c'était qu'il se soit suicidé.
Des avis de recherche ont été relayés dans tout le nord de la Californie. Les chaînes d'infos ne parlaient que de ça.
Ce sont les deux principaux suspects.
Très vite, quelqu'un les a signalés à San Bruno, sur le parking d'un centre commercial.
Alors qu'ils passent en voiture, un policier en patrouille voit deux personnes en train de se changer et de s'embrasser derrière une benne à ordures.
Le policier a reconnu Tyler Witt grâce aux avis de recherche qu'on avait émis dans tout l'État. Il a remarqué qu'elle s'était également teint les cheveux en brun. La police de San Bruno les a interpellés et ramenés au commissariat. Puis l'inspecteur Lykoff et moi-même, nous nous sommes rendus sur place pour les interroger. L'analyse des raticides et de la nourriture trouvée à l'hôtel a montré que personne n'avait essayé de se suicider à la mort au rat. C'était une mise en scène.
Après avoir été soumis à un examen médical de routine, Tyler Witt et Stephen Culver sont conduits dans deux salles d'interrogatoire séparées.
On a commencé par interroger Tyler Witt.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je voulais m'enfuir. Boston et moi, on n'avait plus envie de vivre là-bas. On a décidé d'aller à San Francisco pour être ensemble. J'étais un peu énervée. Parce que ma mère voulait que je dise à un inspecteur que Boston avait fait un truc qu'il n'avait pas fait. Je voulais pas le faire.
C'était en rapport avec le journal ?
Oui.
Et tu disais que ces accusations étaient infondées et que tu t'étais disputée avec ta mère à cause de ça.
Oui.
Tyler Witt ne parle pas du meurtre de sa mère.
On a dormi quelques heures sur le parking de la bibliothèque.
Celle d'Eldorado Hills ?
Ouais.
Ok.
Et puis on est allé dans le centre-ville.
Vous avez dormi sur le parking du centre ?
Pas vraiment. On a comaté environ une demi-heure et je me suis réveillée. Quand je me réveille, il se réveille.
D'accord.
Ensuite, on a décidé d'aller faire des courses.
Quel genre de courses ?
Il nous fallait de la teinture pour les cheveux et de la nourriture.
Pourquoi vous avez acheté ça ? C'était quoi votre projet ? Tu t'es teint les cheveux, vous avez acheté à manger, vous vouliez aller à San Francisco ?
Oui.
Qu'est-ce que vous comptiez faire une fois à San Francisco ?
Aller à l'hôtel.
Ok.
Attendre lundi.
D'accord. Et ensuite ? Vous avez pris une chambre. On sait que vous avez pris une chambre.
Oui.
Dans quel hôtel ?
L'Holiday Inn.
Ok. Vous avez pris une chambre, et après ?
On a simplement essayé de profiter au maximum de nos derniers jours. En attendant lundi. Lundi soir, on a essayé de manger le poison.
D'accord.
Ça n'a pas marché.
Vous avez essayé et ça n'a pas marché, c'est-à-dire ?
On l'a mangé, mais ça nous a pas tués.
Vous en avez mangé beaucoup ? Ça vous a rendu malade ? Vous avez eu mal au ventre ?
Pas vraiment.
Non ? Donc ça, c'est lundi soir, le 15. Vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous mangez de la mort au rat pour essayer de vous tuer. Passons aux choses sérieuses. Tu es ici parce que tu as voulu t'enfuir.
J'imagine que oui.
On sait que ce n'est pas pour ça.
Alors pourquoi ?
Tu as été arrêté pour meurtre.
Quoi ? Qui j'ai tué ?
Ta mère. Ta mère est morte.
Oh non ! C'est pas vrai !
J'étais dans la salle d'interrogatoire, en face d'elle, et elle disait en pleurant : « C'est impossible !»
Il n'y avait pas de larmes. Elle avait plutôt l'air de jouer la comédie.
Je vous crois pas !
Elle est morte.
C'est pas vrai !
Tyler est-elle une victime ou un bourreau ?
On a parlé à tout ton entourage. Aujourd'hui, tu as l'occasion de nous donner ta propre version des faits. Parce que dès qu'on aura fini avec toi, on ira parler à Boston. D'accord.
Tyler a interrompu l'interrogatoire et on a rejoint Stephen Culver dans la salle d'à côté.
Raconte-moi tout.
Comment elle va ?
Elle est en sécurité.
Oui. Je m'inquiète surtout pour elle. J'ai pas grand-chose à vous dire.
L'échange dure moins de 6 minutes.
On a été arrêté devant un magasin de téléphonie. On voulait acheter un chargeur pour pouvoir passer des coups de fil avec mon téléphone. Mon chargeur est resté dans la chambre d'hôtel. On l'a oublié là-bas. Et la voiture est partie à la fourrière, alors.
La voiture a été enlevée ?
Apparemment, on s'est garé à côté d'un parc-mètre, dans une zone d'enlèvement. Jeff Lykoff, c'est ça ?
Oui.
D'accord. Tu te souviens de moi à Oak Ridge?
Plus ou moins, oui.
J'étais le policier référent du lycée d'Oak Ridge. Je n'avais jamais parlé à Stephen Culver avant cet interrogatoire, mais lui, il savait que j'étais le policier référent de son ancien lycée. Il m'a dit, « D'après mes amis, vous êtes plutôt cool. » Mais ses amis pensaient aussi qu'il ferait sans doute mieux de parler à un avocat.
On m'a conseillé de ne parler qu'en présence d'un avocat.
S'ils ignorent encore qui a poignardé Joanne à mort, les enquêteurs ont cependant assez d'éléments pour accuser Stephen Culver d'assassinat. Reste à savoir s'il faut juger Tyler Witt, 14 ans, en tant que mineur ou en tant qu'adulte.
Tyler Witt, le visage dissimulé sous une veste, est escorté hors du tribunal après avoir été entendu par le juge des enfants ce matin.
Les affaires de ce genre sont terriblement sensibles. Il faut penser à la famille. En l'occurrence, il y avait un homme qui venait de perdre sa fille et à qui la police avait annoncé que c'était sa petite fille qui l'avait tuée. Toute cette famille était sous le choc.
Une adolescente de 14 ans accusée d'avoir tué sa mère avec son petit ami de 19 ans.
Ses camarades du lycée d'Oak Ridge la trouvaient égocentrique.
Sa mère se pliait en quatre pour lui faciliter la vie. Mais Tyler n'appréciait rien de ce qu'elle faisait.
Étant donné l'âge de Tyler, nous avons longuement consulté la famille pour discuter ensemble de la meilleure façon de gérer cette affaire. Et finalement, la famille de Joanne et le bureau du procureur ont décidé de juger Tyler Witt en tant qu'adulte.
Quelques mois plus tard, la police reçoit le rapport d'autopsie.
L'autopsie indiquait que Joanne avait été poignardée si violemment que la lame avait touché l'os.
Il y avait 30 plaies différentes. C'était clairement un crime passionnel.
Certains éléments montraient aussi que Joanne s'était débattue, en particulier les plaies aux mains, qui sont ce qu'on appelle des blessures défensives. On a fait des prélèvements ADN sur le corps de Joanne Witt et sous ses ongles pour essayer de déterminer qui avait fait ça.
Les inspecteurs découvrent avec stupeur qu'aucune trace ADN n'a été retrouvée sur le corps de Joanne.
À l'approche du procès, on avait prévu de ne faire qu'une seule procédure et de les juger tous les deux ensemble.
Tyler Witt est entré dans la salle du tribunal du comté d'Eldorado. 20 secondes plus tard, son petit ami présumé, Stephen Culver, s'est assis derrière elle.
Je m'appelle Dane Winer. Je suis avocat en droit criminel. J'ai défendu Stephen Culver. Il clamait qu'il était innocent, qu'il n'avait pas tué Joanne. Mais il y avait le témoignage de cet ami à qui Stephen Culver avait avoué le meurtre de Joanne Witt.
Stephen Culver et Tyler Witt continuent à se jurer un amour inconditionnel. Et puis, juste avant le procès, l'adolescente change d'avis.
Elle a dit qu'elle voulait raconter ce qu'il s'était vraiment passé. Elle souhaitait plaider coupable de meurtre, avec à la clé une condamnation plus clémente que pour un assassinat.
Elle dit au bureau du procureur qu'elle a participé, mais que c'est Stephen Culver qui a tué sa mère.
Il maintenait qu'elle était restée à l'extérieur de la pièce et qu'elle ne l'avait pas aidé à poignarder Joanne. Il avait agi seul.
Dans le cadre de sa négociation de peine, Tyler devait nous indiquer où était le couteau. D'après elle, il l'avait laissé dans un collecteur d'eau pluviale non loin de la maison. On a fouillé le secteur, mais on n'a pas retrouvé le couteau.
Après de longues discussions, Tyler Witt a fini par plaider coupable de meurtre, avec une période de sûreté de 15 ans de réclusion criminelle. Et elle a accepté de témoigner contre Stephen Culver au procès.
Quand Stephen a appris que Tyler allait témoigner contre lui, il s'est senti trahi. Dans sa tête, ils étaient toujours amoureux.
Quand Tyler a décidé de l'accuser, il s'est dit... Ok, donc tu ne m'aimes pas. Je t'ai simplement servi de bouc émissaire.
Le procès de Stephen Culver s'ouvre presque 2 ans après le meurtre de Joanne Witt.
Les anciens camarades de classe de Culver le trouvaient bizarre.
Il venait au lycée et il nous parlait de sa collection de couteaux et de sabres.
J'ai jamais considéré Stephen comme quelqu'un de violent. Il n'a rien fait, il veut juste la protéger.
Dans sa déclaration liminaire, la substitute du procureur accuse directement Stephen Culver.
Le but de ma déclaration liminaire était de faire comprendre aux jurés les relations entre Joanne, Tyler et Stephen Culver. Joanne tenait à ce que Culver soit mis en examen pour avoir eu des relations sexuelles avec sa fille.
Dans leur tête, Joanne était le seul obstacle à leur amour. En gros, ils se prenaient pour Roméo et Juliette. Ils voyaient cet homicide sous un jour romantique.
Nous soutenions que ce n'était pas Stephen, mais Tyler qui avait tué Joanne. 20 coups de couteau, ça dénote une bonne dose de colère et d'amertume, ce qui indiquerait que c'est Tyler Witt qui est passé à l'acte et non pas Stephen. À l'époque, il voulait avant tout protéger Tyler et mettre en sécurité la femme dont il était amoureux.
Tyler Witt doit témoigner, mais quelques instants avant de l'appeler à la barre, l'accusation découvre l'existence d'une pièce à conviction déterminante pour l'issue du procès.
Flash info, interruption mystérieuse du procès des amants maudits dans le comté d'Eldorado.
L'accusation a obtenu une trace ADN à la dernière minute.
Les tests ADN ont fini par indiquer la présence d'ADN masculin sous ses ongles, ainsi que sur son genou.
Mais cette quantité infime d'ADN ne suffit pas à établir un profil complet.
Je pense qu'il apparaissait clairement que cet ADN était celui de son agresseur, Stephen Culver. Et il était important que les jurés le comprennent.
L'accusation semble en position de force, mais la défense contre-attaque et met en cause la valeur de ces traces ADN.
On a fait témoigner un expert qui a expliqué que ces petits fragments d'ADN masculin sous ses ongles pouvaient provenir de multiples sources. Quelqu'un a pu les déposer en lui serrant la main. Rien ne prouve que c'est celui de Stephen.
Après la découverte de l'ADN, Tyler Witt est appelé à témoigner. Tout le monde attend de savoir ce qu'elle a à dire. Chacun se demande ce qu'elle va pouvoir encore inventer.
À la barre, elle a reconnu qu'elle était mythomane et promis de dire enfin toute la vérité. Ça m'a sidérée. Elle a admis que c'était elle qui avait tout organisé.
Il fallait empêcher ma mère d'en parler à la police, en la tuant.
Elle a rapporté qu'elle avait fini par décider que sa mère devait mourir.
Stephen Culver lui a envoyé un message. Quel est le plan ?
À en croire Tyler Witt, il était prévu qu'elle drogue sa mère et que Stephen Culver se faufile ensuite dans la maison. Ils devaient commettre le meurtre ensemble.
Tyler Witt a déclaré que Stephen Culver avait apporté un grand couteau avec lui. Elle a reconnu qu'elle avait également un couteau.
Elle affirme qu'elle a vu Culver s'entraîner à donner de grands coups de couteau et que ça lui a fait très peur.
J'ai vraiment flippé.
Tyler Witt a raconté qu'à la dernière minute, elle n'avait pas pu. Elle entendait les supplications de sa mère et les bruits qu'elle faisait en se débattant. Elle savait très bien ce qu'il se passait dans cette chambre, mais elle n'a rien fait pour l'empêcher.
Je me suis assise dos à la porte, les mains sur les oreilles et les yeux fermés, en chantonnant.
Elle raconte, quand Stephen est sorti, il avait une jambe de pantalon imbibée de sang. Et il y avait même une petite larme de sang sur sa joue. Ensuite, elle a nettoyé la scène de crime.
Les jurés observent l'attitude des témoins lorsqu'ils sont à la barre. Au moment où elle a déclaré que sa mère devait mourir, elle aurait tout aussi bien pu être en train de chasser une mouche sur son bras. Elle n'exprimait pas la moindre émotion.
Quand j'ai entendu le témoignage de Tyler, je me suis dit, ça peut pas être Stephen. C'est un gentil. Il n'est pas du genre à chercher à se venger.
Il est important de souligner qu'avant sa rencontre avec Steven, Tyler Witt avait déjà évoqué l'idée de tuer sa mère devant d'autres personnes. Elle avait demandé à un de ses amis de l'aider à se procurer de l'arsenic. Elle avait déjà menacé sa mère avec un couteau. Elle avait très précisément dit à son ami, « Si ma mère refuse de me laisser voir Steven, je jure devant Dieu que je la tuerai. »
Pendant le procès, je n'ai pu parler à Steven qu'une seule fois. J'étais assis dans le hall d'entrée du tribunal et ils lui ont fait prendre l'ascenseur. Je lui ai dit, « Je suis là pour toi. » Il a souri en levant un pouce en l'air. Steven disait, « Maintenant, je vais me défendre et dire ce qu'il s'est passé. »
Le 8 juin 2011, Steven Culver est appelé à témoigner pour sa propre défense.
Steven clamait qu'il était innocent, qu'il n'avait pas tué Joanne.
À la barre, Culver explique que Tyler Witt l'a contacté.
Tyler m'a appelé vers 10h30. Elle voulait que je vienne parce qu'elle était très en colère contre sa mère.
Lorsqu'il arrive chez elle, l'adolescente lui dit qu'elle a tué sa mère.
Elle avait un couteau de cuisine à la main et il y avait une tache rouge sur sa jambe droite.
Sidéré, Steven Culver entre dans la chambre.
Je lui ai tapoté la jambe. Et puis j'ai vu le sang.
Lorsqu'il tire le drap, il découvre que Joanne a une plaie béante au niveau du cou et qu'elle est couverte de sang.
Steven Culver reconnaît qu'il a avoué le meurtre à son ami Matthew, mais il prétend désormais qu'il a menti.
Culver avait dit à Matthew qu'il avait poignardé Joanne au ventre. Or, ce n'était pas vrai.
Avec tout ce sang, j'ai cru qu'elle l'avait poignardé au ventre. Je voulais le convaincre.
S'il était coupable, il savait forcément qu'il n'y avait pas de plaie au ventre. Pour moi, ça montre qu'il a tout inventé.
Le jeune homme affirme qu'il s'est accusé parce qu'ils avaient prévu de se suicider ensemble. Une sorte de geste héroïque pour sauver la réputation de Tyler Witt. Il voulait qu'elle puisse mourir sans qu'on sache qu'elle avait tué sa mère.
Concernant leur projet de suicide, Steven a déclaré que la mort au rat avait mauvais goût et qu'ils avaient donc renoncé à la manger.
Steven Culver s'est montré au juré sous son meilleur jour. Mais je crois qu'il y avait suffisamment d'éléments à charge pour le condamner.
Dans son réquisitoire, la substitute du procureur accuse Tyler Witt de complicité dans le meurtre de sa mère. Mais elle maintient que le véritable meurtrier de Joanne est Steven Culver.
Il était important de dire au juré qu'il était en colère parce que cette méchante mère s'opposait à leur relation. Et ça, ça ne lui plaisait pas.
Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense argue que son client est peut-être coupable de détournement de mineurs, mais qu'il n'a pas tué Joanne Witt.
Ce qu'il faut retenir ici, ce sont les incohérences dans le témoignage de Tyler Witt, l'absence d'antécédents violents chez Steven et le fait que les traces ADN pouvaient provenir de différentes sources. Rien ne dit que c'était celui de Steven Culver.
Maître Weiner décrit Tyler Witt comme une jeune fille très perturbée qui ne manifeste aucun remords vis-à-vis de la mort de sa mère.
Je pense que dans sa tête, sa mère devait mourir pour que Steven et elle puissent être ensemble.
Le 15 juin 2011, 2 ans jour pour jour après le meurtre de Joanne Witt, le jury rend son verdict après moins de 24 heures de délibéré.
Nous, les jurés tirés au sort dans l'affaire susmentionnée, déclarons l'accusé Steven Paul Culver coupable de meurtre.
Steven Culver, 21 ans, est déclaré coupable d'assassinat.
Quand les jurés ont annoncé le verdict, L'émotion était à son comble.
Je n'en revenais pas que l'accusation ait fait de Steven une sorte de monstre. Ce n'était pas lui.
Grâce à sa reconnaissance préalable de culpabilité, Tyler Witt a été condamné pour meurtre, soit la perpétuité avec une période de sûreté de 15 ans, une peine beaucoup plus clémente que pour un assassinat.
C'est une affaire vraiment monstrueuse, où la préméditation ne fait aucun doute. J'estime que Tyler Witt aurait dû écoper d'une peine plus lourde. De son côté, Stephen Culver a pris perpétuité. Pourtant, j'aurais préféré qu'ils soient tous les deux condamnés à mort.
Aujourd'hui, au moment du verdict, la famille de la victime s'est directement adressée à Stephen Culver.
Stephen Culver avait un côté obscur. Il a transformé une fille de 14 ans en droguée, accro au sexe et en meurtrière. Puisse-t-il pourrir dans cet enfer qu'il a tant décrit dans son journal ? Tyler, tu n'as jamais apprécié les efforts de ta mère. Tu étais toute sa vie. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour toi, pour t'offrir la meilleure vie possible. Tu es une meurtrière.
J'ai vu la douleur dans les yeux du père de Joanne et de ses frères et sœurs. Et ça m'a brisé le cœur.
Je crois que Tyler Witt a tué sa mère. La personne qu'il avait mise au monde, celle qui avait pris soin d'elle, celle qui lui avait donné tout ce qu'elle avait. Elle a pris la vie de sa mère, comme si elle ne comptait pas.
Le plus tragique dans tout ça, c'est que s'il avait été arrêté et mis en examen pour sa relation avec Tyler, leur situation aurait été bien moins grave qu'elle ne l'est actuellement.
Tyler Witt pourra demander la libération conditionnelle en 2023, un an avant la fin de sa période de sûreté de 15 ans.
Que pensez-vous de la libération conditionnelle de Tyler Witt ?
Je préfère ne pas en parler, pour le moment.
J'imagine que Tyler Witt va bientôt être libérée de prison. Elle a purgé sa peine. J'espère qu'elle utilisera son intelligence et ses capacités pour persuader les gens de faire le bien et non le mal.
C'est une histoire vraiment tragique. Joanne vivait pour cette gamine. Elle lui a donné tout ce dont elle pouvait rêver. Mais ça ne suffisait pas à sa fille. C'est terrible de se dire que Joanne a été tuée par la personne qu'elle aimait le plus au monde.
Il y a des histoires qui naissent dans l'ombre et refusent de mourir, des histoires qui persistent comme une cicatrice invisible sur la peau d'une ville. Celle-ci commence au cœur de l'année 2001, dans une époque où les tours de verre s'élevaient comme des cathédrales modernes, où les marchés financiers battaient au rythme de téléphones portables massifs et de fax grinçants, instruments déjà vieillissants mais encore indispensables dans les échanges d'affaires. Ce n'est pas un meurtre immédiat que l'on découvre, ni une scène sanglante. C'est une absence, un vide. Un silence laissé par un homme dont la réussite semblait inébranlable et qui, du jour au lendemain, s'est évaporé dans l'air, comme si son existence entière avait été effacée d'un simple trait. Cet homme s'appelait Marc Delambre. 47 ans, costume taillé sur mesure, carnet d'adresses impressionnant, connu dans les cercles d'affaires de Lyon comme un entrepreneur aussi ambitieux que secret. Il avait construit sa fortune dans l'import-export de matériel électronique, à une époque où l'Europe s'ouvrait de plus en plus au marché asiatique. Ceux qu'il avait croisés parlaient d'un homme qui maîtrisait les silences mieux que les mots, un homme dont le regard sombre semblait constamment peser sur la balance entre confiance et menace. On disait de lui qu'il avait ce magnétisme étrange, mélange de charisme et de froideur, capable de séduire ou de terrifier selon le moment. Le soir du 14 novembre 2001, Marc devait assister à un dîner d'affaires dans un restaurant réputé du centre-ville. Il n'y est jamais arrivé. Sa voiture, une berline allemande aux vitres teintées, a été retrouvée garée devant son bureau comme si rien ne s'était produit. Aucun signe d'effraction, aucun indice évident. À son domicile, pas de désordre. Sa femme affirma qu'il avait quitté la maison vers 19h30, détendu, une mallette à la main, portant sa montre préférée, une Omega argentée. Mais il ne franchira plus jamais le seuil de la porte. Les premiers jours, on parla d'un voyage improvisé, d'un déplacement secret lié aux affaires. Mais rapidement, l'évidence s'imposa. Marc avait disparu. Pas de message, pas de trace bancaire après le 14 novembre. Pas même un retrait d'argent. Comme si une main invisible avait tiré le rideau sur sa vie. La police ouvrit une enquête, mais l'absence de corps, de crime apparent, transformait cette disparition en labyrinthe sans issue. Et dans les couloirs feutrés des commissariats, on répétait déjà en silence cette phrase qui glace toujours. Le sang. Il y a des disparitions plus inquiétantes que des meurtres, parce qu'elles ressemblent à des fantômes qui refusent de parler. Ce qui rendait l'affaire encore plus opaque, c'était le monde dans lequel évoluait Marc Delambre. Ses relations commerciales l'avaient mené à Singapour, Hong Kong, Genève, et parfois même dans des zones grises où l'argent circule plus vite que les noms. Des partenaires, mais aussi des ennemis. Des dettes masquées. Des promesses non tenues. L'univers feutré des affaires de la fin des années 90 ressemblait à une table de poker où les sourires cachaient souvent des lames. Ceux qui avaient croisé Marc racontaient qu'il savait garder des secrets. Peut-être trop de secrets. Les enquêteurs scrutèrent ses comptes, interrogèrent sa femme, ses associés, ses employés. Rien de concret, aucun mouvement suspect. Seuls quelques murmures dans les milieux financiers parlaient d'un deal qui aurait mal tourné, d'une cargaison disparue en mer quelques mois plus tôt, d'un partenaire étranger qui réclamait vengeance. Mais tout cela restait de l'ordre de la rumeur, rien de solide à présenter devant un juge. Puis, il y eut ce détail, le fax. Dans une époque où les emails commençaient à remplacer le papier, Marc continuait à utiliser le fax pour ses contrats les plus sensibles. L'appareil trônait dans un coin de son bureau, relique d'un autre temps, mais outil encore vital. C'est là que, deux jours après sa disparition, un message étrange arriva, un document envoyé par erreur à un bureau voisin, un fax qui semblait destiné à Marc, mais qui se trompa de destinataire à cause d'un numéro inversé. Ce document contenait une série de chiffres, des noms codés, et surtout une phrase griffonnée à la main. « Ce soir, tout doit disparaître. » Ce fut la première fissure dans le silence. Le genre de fissure qui attire la lumière et les ombres en même temps. Le fax fut transmis à la police, qui y vit peut-être un indice, peut-être une mise en scène. Mais pour la famille de Marc, c'était une bouée fragile à laquelle s'accrocher. La preuve qu'il ne s'était pas simplement volatilisé. Quelqu'un savait quelque chose, quelqu'un l'avait peut-être voulu. La presse s'empara du mystère. Les titres des journaux alternaient entre fascination et effroi. L'homme qui s'est effacé, le fantôme de Lyon, disparition sans trace. Les photographies de Marc circulaient dans toute la ville, son visage figé dans un demi-sourire qui paraissait presque moqueur, comme s'il connaissait la réponse que personne ne trouvait. Dans les cafés, les conversations s'enflammaient. Avait-il fui avec une maîtresse? Était-il victime d'un complot? Avait-il simulé sa propre mort pour échapper à une dette colossale? La disparition devenait une légende urbaine, un miroir dans lequel chacun projetait ses propres peurs. Mais au fond, derrière les rumeurs, restait une réalité glaciale. Un homme, une famille brisée, un vide que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient combler. Les enquêteurs, eux, avançaient comme des funambules sur un fil tendu entre vérité et mensonge. Le fax devenait leur unique point de départ solide, ce fragment de papier jauni par la chaleur de l'appareil, porteur d'une écriture nerveuse, presque désespérée. Qui avait envoyé ce message? À qui était-il destiné? Et surtout, que voulait dire cette phrase sinistre? Ce soir, tout doit disparaître. Chaque mot semblait peser comme une menace. Dans les archives de la police, certains enquêteurs avaient déjà vu ce type de formulation. Elle apparaissait parfois dans les dossiers liés au blanchiment d'argent ou dans les milieux où les cargaisons illicites devaient être détruites avant une saisie. Mais dans le cas de Marc Delambre, cette phrase prenait un ton plus personnel, presque funèbre. Était-ce une métaphore pour une opération financière clandestine ou l'annonce d'un effacement plus radical, celui d'une vie entière? À partir de là, le dossier bascula. Ce n'était plus seulement une disparition inquiétante, mais l'ombre d'un crime organisé, d'une mécanique complexe qui dépassait peut-être les frontières de la ville, peut-être même celle du pays. La police se heurta au mur de silence habituel dans les affaires impliquant des capitaux transnationaux, des sociétés écrans, des intermédiaires introuvables, des témoins qui se rétractaient soudain. Chaque fil tiré révélait un autre nœud, chaque piste se transformait en impasse. Et pourtant, le fax restait, immuable, comme une cicatrice sur le papier, rappel constant que quelque part, quelqu'un avait laissé fuiter une vérité involontaire. Ce n'était que le début. Le fax devint la pièce la plus précieuse d'un puzzle dont les contours restaient flous. Les policiers, prudents, envoyèrent à elle le document au service de graphologie. L'écriture était nerveuse, légèrement inclinée vers la droite, tracée par une main pressée, peut-être stressée. Le mot « disparaître » semblait avoir été accentué, comme si celui qui écrivait avait appuyé plus fort, laissant une empreinte presque gravée dans le papier. Mais aucun expert ne put l'attribuer à un individu connu. L'anonymat restait intact, et c'était précisément ce qui nourrissait la peur. Quand une menace ne porte pas de visage, elle devient universelle. L'enquête reprit un souffle nouveau. Les policiers retournèrent au bureau de Marc Delambre. L'entreprise, installée dans un immeuble moderne de la part Dieu, respirait l'ordre et la puissance. Des ordinateurs encore allumés, des dossiers bien rangés, une secrétaire aux yeux fatigués qui répétait les mêmes phrases. Monsieur Delambre était un homme exigeant, mais toujours correct. Ce soir-là, il est parti comme d'habitude, rien ne semblait anormal. Pourtant, derrière cette façade lisse, les enquêteurs prestaient une tension invisible, comme si chaque meuble, chaque pile de documents, dissimulait un secret. Dans son bureau, une odeur légère de cigare persistait, signe d'une habitude qu'il réservait aux grandes décisions. Les tiroirs étaient vides de toute correspondance compromettante, mais un détail attira l'attention, un agenda en cuir soigneusement posé à côté du fax. À la date du 14 novembre, la dernière qu'il ait vécue, une seule note apparaissait, griffonnée à la hâte, 21h, pont Lafayette. Rien de plus, pas de nom, pas d'indice, mais ce rendez-vous nocturne au bord du Rhône contrastait avec l'histoire officielle. Il devait dîner dans un restaurant, pas se rendre à un pont. Les policiers fouillèrent les archives de la circulation ce soir-là. Pas de témoins, pas de signalement. Pourtant, certains habitants du quartier rapportèrent avoir vu, aux alentours de 21h, une voiture sombre stationnée près du pont, moteur éteint, vitres fumées. Mais aucun visage, aucun détail. Juste la certitude qu'il y avait eu une attente, un silence pesant, puis le départ d'une silhouette qui s'engouffra dans la nuit. Pendant ce temps, l'épouse de Marc, Elisabeth Delambre, sombrait dans une angoisse glacée. Femme discrète, habituée au dîner mondain, mais pas aux projecteurs de la presse, elle se retrouva scrutée par les journalistes comme si elle détenait la clé du mystère. Les rumeurs allaient bon train. Certains affirmaient qu'elle connaissait les dettes de son mari, d'autres la soupçonnaient de complicité. Elle répétait sans cesse « Marc était préoccupé ces derniers jours, mais il ne m'a rien dit. » Ses larmes semblaient sincères, mais la police savait que les apparences sont toujours trompeuses. L'affaire prit une dimension encore plus sombre lorsque les enquêteurs découvrirent un transfert bancaire suspect. 3 jours avant sa disparition, Marc avait fait virer une somme importante vers un compte offshore basé aux îles Caïmans. Le montant exact ne fut pas communiqué à la presse, mais il suffisait pour alimenter toutes les théories. Fuite organisée, chantage, règlement de compte, un détail troubla cependant les enquêteurs. Ce compte n'avait pas été ouvert par Marc lui-même, mais par une société écran enregistrée à Hong Kong dont le directeur officiel n'était qu'un prête-nom introuvable. La piste financière s'enfonçait dans les ténèbres. Au fil des semaines, la police commença à dresser un portrait plus inquiétant de l'homme disparu. Marc Delambre, derrière son image de self-made man, avait accumulé des ennemis. Un ancien associé, interrogé à Genève, déclara « Marc était brillant, mais dangereux. Il savait manipuler les chiffres et les gens. Si vous étiez un obstacle, il vous effaçait, comme on efface une ligne dans un tableau Excel. Cette phrase résonna étrangement avec le fax. Tout doit disparaître. Comme si le vocabulaire des affaires avait contaminé celui du crime. Lyon, en cet hiver 2001, vivait au rythme de cette énigme. Chaque jour, les journaux diffusaient de nouvelles hypothèses. Les cafés bruissaient de conversations où l'affaire prenait des allures de roman noir. Certains voyaient la main de la mafia italienne, d'autres parlaient d'une vengeance venue d'Asie. Les plus cyniques affirmaient que Marc avait simplement organisé son propre effacement, profitant du chaos financier de l'époque pour disparaître sous une autre identité. Mais alors, pourquoi ce fax ? Pourquoi cette phrase menaçante arrivée par erreur ? L'étau se resserra quand un employé de l'immeuble voisin, celui qui avait reçu le fax par mégarde, se souvint d'un détail. Le document avait été envoyé d'un numéro anonyme, mais sur la feuille apparaissait en filigrane une série de chiffres, comme une empreinte laissée par l'appareil expéditeur. Les experts parvinrent à relier ce code à un vieux fax situé dans un hôtel discret de la périphérie lyonnaise. Un établissement modeste, souvent fréquenté par des voyageurs de passage, mais aussi par des hommes d'affaires en quête de discrétion. Les policiers se rendirent sur place. Le gérant, un homme au regard fuyant, affirma ne rien savoir. Pourtant, les registres de l'hôtel indiquaient qu'une chambre avait été louée le 14 novembre au soir au nom de Jean Mercier. Fausse identité, évidemment, mais la description donnée par une femme de ménage glaça le sang des enquêteurs. Grand, cheveux poivre et sel, costume sombre, mallette noire. C'était Marc. Alors, que faisait-il là, dans cet hôtel anonyme, à quelques heures de sa disparition? Et surtout, qui l'accompagnait? Car la femme de ménage ajouta un détail crucial. « Je crois qu'il n'était pas seul. J'ai entendu des voix, des hommes qui parlaient bas, nerveusement. » À partir de cet instant, l'affaire prit une tournure quasi théâtrale. Le décor était planté. Un homme d'affaires compromis, un rendez-vous secret au pont Lafayette, un passage dans un hôtel de périphérie, et ce fax envoyé comme un aveu involontaire. Mais la pièce maîtresse restait manquante, le corps. Sans lui, tout n'était que supposition. La justice hésitait, l'opinion publique s'impatientait, et la famille sombrait dans une attente insupportable. C'est alors qu'un nouvel élément surgit, aussi inattendu que glaçant. 2 mois après la disparition, un pêcheur remonta dans ses filets, à quelques kilomètres en aval de Lyon, une mallette noire. Trempée, abîmée, mais encore fermée. À l'intérieur, des documents partiellement illisibles, rongés par l'eau, mais aussi un carnet. Les pages étaient gondolées, l'encre baveuse, mais une phrase restait lisible, comme protégée par le destin. Ne pas faire confiance, même les plus proches. Cette note, attribuée à Marc, plongea l'enquête dans une spirale vertigineuse. Qui étaient ses plus proches, ses associés, sa famille, ses amis? Chaque visage autour de lui devenait une menace potentielle. Les policiers comprirent alors que l'affaire ne se limitait pas à une simple disparition, mais qu'elle touchait à la mécanique la plus intime de la trahison humaine. Celle qui vient de l'intérieur, là où l'on s'y attend le moins. La découverte de la mallette au fond du fleuve fut comme une déflagration silencieuse. Elle ne contenait pas un corps, pas une arme, mais elle révélait un abîme plus inquiétant encore, celui des secrets que Marc Delambre emportait avec lui. Le carnet, humide et presque détruit, devint la nouvelle relique d'une enquête vacillante. On l'étudia page après page, sous lumière ultraviolette, sous microscope, cherchant à décoder chaque tache d'encre, chaque fragment de phrase. Mais hormis cette sentence obsédante, ne pas faire confiance, même les plus proches. Tout le reste était trop altéré pour livrer une vérité claire. Pourtant, cette phrase suffisait à transformer l'affaire. Désormais, ce n'était plus seulement l'histoire d'un homme disparu, mais le récit d'une trahison, peut-être familiale, peut-être intime. La presse s'empara de ce détail comme d'une étincelle dans une poudrière. On spéculait, la femme de Marc, ses associés, ses amis d'enfance, tous pouvaient entrer dans ce cercle étroit des plus proches. Les journalistes fouillèrent la vie privée du couple Delambre avec une voracité de vautours. Des photographies du mariage réapparurent, des clichés de vacances où Mark semblait déjà absent du regard, le sourire figé comme un masque. Elisabeth, son épouse, subit des assauts incessants de caméras et de micros. On lui demandait si elle avait eu un amant, si elle connaissait les affaires occultes de son mari, si elle savait plus qu'elle ne le disait. Elle se taisait, parfois en larmes, parfois dans une dignité glacée. Cette femme, soudain projetée au centre d'un drame national, devenait le personnage le plus scruté de France. Pour les enquêteurs, il ne s'agissait pas de céder aux fantasmes médiatiques, mais de démêler les chevaux d'indices. Ils reprirent la piste de l'hôtel où Marc avait été aperçu la veille de sa disparition. Le gérant, après de multiples pressions, admit finalement qu'un second client avait occupé la chambre voisine ce soir-là. Inscrit sous le nom de C. Morvan, il avait payé en liquide et laissé derrière lui un mégot de cigarette. Le laboratoire confirma que l'ADN ne correspondait à aucun profil connu de la base nationale. Un fantôme, encore un. Mais un fantôme qui avait partagé les murs avec Marc la dernière nuit connue de sa vie. Pendant ce temps, le fax demeurait la pièce centrale. Les experts en cybercriminalité, appelés à la rescousse, affirmèrent que l'envoi provenait bien de l'appareil de l'hôtel, mais que celui-ci avait probablement été manipulé par plusieurs personnes. Le message pouvait avoir été écrit par un tiers ou dicté. Le flou persistait, comme si chaque indice avait été soigneusement préparé pour maintenir l'ambiguïté. Et c'est peut-être cela qui glaçait le plus. L'idée qu'on assistait non pas à un crime improvisé, mais à une mise en scène millimétrée. L'hiver avançait, et Lyon se couvrait de brouillard. La ville semblait refléter l'affaire, opaque, étouffante, saturée de rumeurs. Des policiers racontèrent avoir reçu des appels anonymes, des voix déformées qui laissaient échapper des bribes. Ils savaient trop de choses, cherchaient du côté des conteneurs, tout est déjà réglé. Mais aucune de ces pistes ne menait à du concret. Chaque voix anonyme ressemblait à un spectre venu alimenter le mythe plutôt que la vérité. Un tournant se produisit lorsqu'un ancien collaborateur de Marc, installé à Marseille, se présenta de lui-même aux enquêteurs. Il déclara que Marc avait récemment parlé d'un grand nettoyage à venir. Selon lui, ce nettoyage n'avait rien à voir avec des opérations financières. C'était une métaphore pour désigner l'élimination de partenaires devenus gênants. Marc aurait confié « Quand les murs se rapprochent, il faut savoir qui sacrifier ». Cette phrase, placée en parallèle du fax, renforça l'hypothèse d'un règlement de compte orchestré. Mais qui était le bourreau et qui était la victime ? Marc avait-il été trahi ou avait-il lui-même déclenché une mécanique qui s'était retournée contre lui ? Les policiers fouillèrent mentir ses contrats, ses cas passés. Un en particulier attira l'attention. Un accord avec une société asiatique de matériel électronique, signé dans des conditions floues. La cargaison prévue n'était jamais arrivée et une somme colossale s'était volatilisée. Derrière cette société, les enquêteurs découvrirent un enchevêtrement de prête-noms, d'adresses fictives, d'intermédiaires douteux. Tout pointait vers un réseau de blanchiment d'argent. Marc avait-il tenté de jouer avec le feu ? Et si oui, avait-il été consumé par les flammes qu'il croyait contrôler ? Ce fut à ce moment-là que l'un des enquêteurs, un vétéran marqué par des décennies de crimes impunis, prononça cette phrase lourde de sens. Quand un homme disparaît, ce n'est pas seulement lui qu'on perd, c'est aussi la vérité qu'il portait. Dans cette affaire, la vérité semblait s'éloigner à mesure qu'on tentait de l'approcher. Comme un mirage, elle se dérobait, laissant derrière elle seulement des ombres. La tension monta encore d'un cran lorsqu'un journaliste d'investigation, en quête de scoop, publia un article affirmant que Marc Delambre avait été vu vivant plusieurs semaines après sa disparition dans un aéroport suisse. L'information fit l'effet d'une bombe. Certains y virent la preuve d'une fuite organisée, d'autres une manipulation destinée à brouiller les pistes. La photo publiée, granuleuse, montrait effectivement un homme ressemblant à Marc, mais flou, de profil presque irréel. Était-ce lui ? Était-ce un souci ? La controverse alimenta encore la légende, plongeant l'affaire dans une atmosphère de roman d'espionnage. Mais derrière le tumulte médiatique, les enquêteurs continuaient leur travail de fourmi. Ils revinrent sur le détail du pont Lafayette, noté dans l'agenda de Marc. En fouillant les caméras de surveillance, rare à l'époque mais déjà présente sur certains axes, ils finirent par trouver une image, un véhicule stationné à proximité correspondant à la description donnée par les témoins. Mais ce n'était pas la berline de marque, c'était une camionnette blanche, banale, sans logo, le genre de véhicule qui ne laisse aucune mémoire sinon celle des fantômes qu'il transporte. Dès lors, une hypothèse terrifiante prit forme. Marc n'avait peut-être jamais eu l'intention de dîner ce soir-là. Le rendez-vous au pont, l'hôtel, le fax, tout indiquait qu'il avait pénétré dans un engrenage orchestré. Était-il l'architecte de ce piège ou sa victime ? La frontière restait trouble, comme si la disparition elle-même était devenue une monnaie d'échange, une stratégie ultime dans un jeu où les vies se pèsent au même titre que les billets. Dans le silence glacé des salles d'archives, les enquêteurs se confrontaient à une vérité obsédante. Plus ils creusaient, plus Marc apparaissait comme un homme double. À la fois victime et bourreau, manipulateur et manipulé, présent et absent. Et cette ambiguïté, loin de rapprocher de la résolution, enfermait l'affaire dans un brouillard encore plus dense. C'est alors qu'un détail surgit, minuscule mais décisif. Un expert en télécommunications, en analysant de nouveau le fax, découvrit que le papier utilisé portait une marque d'eau presque invisible, une signature d'imprimerie mentionnant une série limitée produite en Italie, réservée à certaines entreprises. Parmi elles, une seule avait un lien avec Marc. Une société basée à Milan, partenaire commercial occasionnel, le papier n'avait donc pas été choisi au hasard. Il reliait le message à un cercle restreint, celui des partenaires internationaux de l'homme disparu. Dès lors, la géographie du mystère s'élargit. L'affaire de Lyon s'étendait à l'Europe entière, dessinant une toile qui dépassait les frontières, reliant des bureaux feutrés de Milan aux docks embrumés du Rhône. Le fantôme de Marc Delambre, loin de se dissiper, grandissait, prenant la forme d'un spectre planant au-dessus des affaires. Rappel, cruel que le pouvoir et l'argent sont toujours bâtis sur des fondations fragiles. Et dans ce spectre, une certitude se dessinait lentement. Le fax n'était pas une erreur. Il était une signature. Le fax n'était plus un accident, mais une déclaration. Ceux qui l'avaient envoyé savaient ce qu'ils faisaient. L'idée glaçante s'imposa. Ce message, arrivé, par erreur, dans un bureau voisin, n'était peut-être pas une bévue technique. Il s'agissait d'un avertissement, un signe volontaire, comme une mèche laissée allumée pour provoquer une explosion contrôlée. Mais qui voulait qu'on découvre cette phrase ? Et surtout, pourquoi la dévoiler à demi-mot, sans visage, sans revendication ? Les enquêteurs se tournèrent vers Milan. La société mentionnée par la marque d'eau du papier s'appelait Technologia Europa, une entreprise spécialisée officiellement dans la distribution de composants électroniques. Mais derrière sa façade légale, les policiers découvrirent un réseau de transactions suspectes reliant des ports méditerranéens à des sociétés écrans au Luxembourg. Marc Delambre avait signé avec eux deux contrats en 1999 et en 2000, portant sur des cargaisons de matériel jamais totalement justifiées. Les factures semblaient gonflées, certaines signatures falsifiées. On retrouvait l'empreinte classique du blanchiment. Les autorités italiennes, sollicitées par la coopération judiciaire, confirmèrent que Technologia Europa faisait l'objet de soupçons depuis des années, sans jamais avoir été formellement condamné. On disait que ses dirigeants savaient se protéger, qu'ils disposaient d'alliés puissants dans les milieux politiques et financiers. En découvrant ce lien, les enquêteurs français comprirent qu'ils touchaient à un nid de serpent. Et Marc, avec son ambition dévorante, s'était peut-être approché trop près du venin. À Lyon, l'épouse de Marc devenait de plus en plus fragile. Elisabeth, visage marqué par l'épuisement, accepta finalement de recevoir les enquêteurs chez elle. Dans le salon feutré, décoré de portraits de famille et de meubles anciens, elle livra un détail qui fit frissonner les policiers. 2 semaines avant sa disparition, Marc m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je ne devais faire confiance à personne, même pas à nos amis les plus proches. La phrase, identique à celle retrouvée dans le carnet de la mallette, résonna comme un écho. Marc savait. Il pressentait le piège. Cette révélation renforça la conviction que la disparition n'était pas une fuite improvisée, mais le résultat d'une mécanique qui avait commencé bien avant. Était-il l'instigateur ou la proie ? La frontière se brouillait davantage. Les enquêteurs épluchèrent les relevés téléphoniques de Mark. Une série d'appels répétés vers un numéro italien, toujours passé depuis des cabines publiques, attira l'attention. Derrière ce numéro se cachait un intermédiaire mystérieux, connu sous le surnom de l'architecte, figure énigmatique des milieux d'affaires parallèles, jamais identifié formellement. Le simple fait que Mark ait communiqué avec lui suffisait à plonger l'affaire dans une obscurité plus profonde encore. Le Rhône, froid et indifférent, continua d'offrir ses indices épars. Quelques semaines après la découverte de la mallette, un jogger trouva, coincé entre deux pierres de la berge, une montre argentée. L'oméga de Mark. L'eau avait terni le métal, mais l'objet était intact. On l'apporta à Elisabeth, qui l'identifia immédiatement. Mais ce détail glaça les enquêteurs. La montre n'avait pas été arrachée dans une lutte. Elle avait été déposée, comme une signature, encore une fois, un geste symbolique, l'effacement de l'homme passé par l'abandon méthodique de ses objets, dispersés comme des jalons dans le brouillard. La presse s'emballa de nouveau. Les titres se faisaient plus sombres. Le fantôme de Lyon sème ses propres traces. L'affaire de l'ambre, disparition ou exécution. La population oscillait entre fascination et effroi. Les conversations dans les bars de la Croix-Rousse ou de la Presqu'île revenaient toujours au même point. Quelqu'un orchestrait un scénario, mais dans quel but ? Était-ce pour intimider, pour clore un conte ? Ou pour transformer Mark en légende urbaine, en mythe qui efface la réalité du crime ? Les enquêteurs, eux, devaient garder la tête froide. Ils interrogèrent de nouveau les associés de Mark. L'un d'eux, nerveux, finit par admettre qu'une réunion secrète avait été prévue le 14 novembre, non pas au restaurant comme annoncé, mais justement au pont Lafayette. Ce soir-là, Mark devait rencontrer deux hommes venus de Milan. Aucun contrat n'avait été signé, mais l'objet de la rencontre était clair. Discuter d'un effacement de dette lié à la cargaison disparue. On ne parla pas de chiffres exacts, mais le mot « effacement » résonnait comme un code funèbre. À ce stade, une hypothèse glaçante prit forme dans l'esprit des policiers. Et si le fax n'était pas une erreur, mais le compte rendu codé de cette réunion fatale, ce soir tout doit disparaître. Était-ce l'annonce d'une liquidation, celle de marchandises, ou celle d'un homme ? Les nuits d'enquête devinrent de plus lourdes. Dans leur rapport, les policiers décrivaient une sensation étrange. Chaque fois qu'ils semblaient s'approcher de la vérité, un détail venait les plonger à nouveau dans l'incertitude. Comme si Mark Delambre lui-même, même absent, continuait à manipuler les fils. Était-il mort ? Était-il vivant, tapis dans l'ombre, jouant avec ceux qui le cherchaient ? La légende grandissait, étouffante. Puis survint une découverte qui fit basculer l'affaire dans une dimension presque irréelle. Un agent infiltré en Italie transmit aux enquêteurs français une copie d'un document trouvé dans un bureau de Tecnologia Europa. Il s'agissait d'une liste de noms codés, accompagnée de dates. Parmi eux, un pseudonyme revenait plusieurs fois, MD. La dernière mention portait la date du 14 novembre 2000. À côté, un mot écrit en rouge, Chiuso. Clos. Cette note sonnait comme un arrêt de mort administratif. Un nom effacé dans un registre, un homme rayé du tableau comme on ferme un dossier. Les enquêteurs comprirent qu'ils faisaient face à un système qui ne tuait pas seulement les corps, mais aussi les identités. Les disparitions devenaient des décisions logistiques, des lignes de compte effacées d'un trait sec. Dans ce monde, la mort n'était pas une tragédie, mais une opération comptable. Le silence autour de Mark devint alors encore plus terrifiant. Il ne restait plus de preuves tangibles de sa survie. Seulement des traces, des symboles, des messages laissés comme des pierres blanches dans une forêt obscure. Chaque découverte, le fax, l'agenda, l'hôtel, la mallette, la montre, semblaient orchestrés pour dessiner un récit. Mais qui écrivait ce récit ? Était-ce Mark, en homme prévoyant sa propre disparition ? Ou ses bourreaux, transformant sa vie en mise en scène pour brouiller les pistes. Dans les couloirs sombres du commissariat, un jeune enquêteur osa murmurer. Peut-être que Mark n'est plus un homme. Peut-être qu'il est devenu une histoire. Une histoire. Et c'était peut-être la vérité la plus glaçante. certaines disparitions ne cherchent pas seulement à cacher un corps, mais à fabriquer un mythe. Le mot « Chiuso » hantait désormais les enquêteurs comme une sentence irrévocable. Ce n'était pas seulement la fermeture d'un dossier, mais l'enterrement d'un homme sous une couche d'administratif froid et cynique. On avait l'impression que la disparition de Marc Delambre n'avait pas été un accident, ni même un règlement de compte improvisé, mais l'exécution méticuleuse d'une décision prise dans les étages supérieurs d'une organisation invisible. Là où l'on ne tue pas avec des balles, mais avec des signatures et des ordres codés. La piste italienne s'imposait, mais elle ne suffisait pas. À Lyon, la tension ne faiblissait pas. La famille Delambre vivait comme dans une maison assiégée. Les journalistes campaient devant le portail, les voisins chuchotaient, les amis s'éloignaient. Elisabeth, l'épouse, se recroquevillait sur elle-même, oscillant entre colère et désespoir. Parfois, elle laissait échapper des phrases étranges. Marc avait peur de l'eau. Il n'aurait jamais approché le Rhône volontairement. Ou encore, il disait souvent que disparaître était parfois la seule façon de survivre. Ces paroles, prononcées d'une voix brisée, résonnaient comme des éclats de vérité, mais sans jamais livrer l'ensemble du puzzle. Les enquêteurs décidèrent de retourner au point de départ, le bureau de Marc. Cette fois, ils ne cherchèrent pas des documents officiels, mais les failles, les interstices, les oublis. Dans un tiroir secondaire de la bibliothèque, derrière une planche mal fixée, ils découvrirent une enveloppe scellée. À l'intérieur, des photographies en noir et blanc, prises manifestement par un amateur. On y voyait Marc assis à une terrasse de Milan, discutant avec deux hommes dont les visages étaient partiellement dissimulés par des journaux. Sur le dos des photos, une date, septembre 2001, et un mot griffonné, trop tard. Qui avait pris ces clichés ? Était-ce un avertissement que Marc avait conservé, ou bien un élément de chantage dont il n'avait pas eu le temps de se servir ? Les visages, même flous, furent envoyés à Interpol. Quelques semaines plus tard, la réponse tomba. L'un des hommes était connu des services italiens pour ses liens avec la mafia calabraise, spécialisée dans le trafic maritime. L'autre, en revanche, demeurait un mystère total, un fantôme sans passé ni identité. L'affaire Delambre devenait un gouffre. Chaque indice soulevait davantage de questions qu'il n'apportait de réponses. Les policiers, pourtant, tenaient une conviction. Marc n'était pas seulement une victime. Il avait été un acteur volontaire de ce jeu dangereux. Le fax, le carnet, les rendez-vous secrets, tout indiquait qu'il savait qu'il marchait sur un fil tendu au-dessus du vide. Mais pourquoi avoir continué ? Était-ce la soif de pouvoir, l'orgueil, ou simplement l'impossibilité de reculer lorsqu'on est déjà trop impliqué ? Le Rhône, toujours, restait un témoin muet. Au printemps 2002, alors que l'affaire commençait à s'essouffler dans la presse, un promeneur découvrit dans les herbes hautes des berges une chemise trempée, déchirée. Elle fut rapidement identifiée comme appartenant à Marc grâce à une étiquette de pressing portant son nom. Mais là encore, le vêtement n'était pas une relique arrachée à un cadavre. Il a été soigneusement plié, puis abandonné. Une fois de plus, comme une trace laissée volontairement. Comme si quelqu'un écrivait un récit macabre en utilisant les objets de Marc comme des chapitres. Cette mise en scène devenait insupportable pour les enquêteurs. L'un d'eux nota dans son rapport « Nous ne cherchons plus un corps, mais une histoire que quelqu'un écrit à notre place. » Chaque découverte est une phrase, chaque indice un mot, mais l'auteur reste invisible. Et ce constat glaçait le sang. Si l'auteur était Marc lui-même, alors il avait orchestré sa disparition comme un roman noir. S'il s'agissait de ses ennemis, alors il possédait une maîtrise diabolique de la mise en scène. À Milan, les investigations sur Technologia Europa avançaient lentement. Les Italiens révélèrent que l'entreprise avait disparu des radars quelques mois après novembre 2001. Fermée du jour au lendemain, ses dirigeants envolés. Comme si elle n'avait existé que pour servir de décor à une opération, puis s'était dissoute une fois sa mission accomplie. Ce détail renforça l'idée que l'affaire Delambre n'était pas un cas isolé, mais l'écho d'une mécanique beaucoup plus vaste. Les enquêteurs français reçurent alors une information anonyme, transmise par un courrier sans signature. À l'intérieur, une simple feuille blanche portant ces mots tapés à la machine. Vous cherchez un disparu. Vous devriez chercher ceux qui disparaissent avec lui. Une phrase énigmatique, presque poétique, mais lourde de menaces. Était-ce un indice, un piège, ou la confirmation que Marc n'était qu'un pion sacrifié dans un échiquier plus large ? Le commissariat entra dans une phase d'obsession. Certains policiers en rêvaient la nuit. D'autres se mirent à fumer nerveusement, à griffonner des schémas sans fin, reliant nom, date, lieu. Mais plus le réseau s'élargissait, plus Marc semblait s'effacer. Son visage, jadis familier sur les photos de journaux, devenait flou dans les mémoires. On parlait moins de lui comme d'un homme, et davantage comme d'un symbole. Le symbole d'une époque où l'argent circulait plus vite que la vérité, où les disparitions devenaient des stratégies, où la mort se confondait avec le silence. Elisabeth, de son côté, sombrait dans un isolement glaçant. Elle reçut des appels anonymes, la nuit, où personne ne parlait. Parfois, une respiration rauque, parfois un simple clic. Elle affirma que la voix, une fois, avait murmuré. « Il est encore là. » Mais aucun enregistrement ne permit de confirmer. Était-ce une hallucination née de la fatigue ou bien le prolongement de ce scénario terrifiant qui semblait vouloir la broyer aussi ? Puis survint l'événement le plus déroutant depuis le début de l'enquête. En mai 2002, un fax arriva directement au commissariat de Lyon. Un seul feuillet, sans en-tête, sans numéro d'expéditeur. Il contenait la même phrase que celle de novembre. « Ce soir, tout doit disparaître. » Mais cette fois, elle était accompagnée d'une date. 14 novembre 2002, un an après. Comme une menace répétée, comme une commémoration macabre. Les enquêteurs comprirent qu'ils n'étaient plus seulement en train de courir après un disparu. Ils étaient devenus des acteurs malgré eux, embarqués dans une pièce écrite par une main invisible, contraints de suivre un calendrier qui leur échappait. L'affaire de l'Ambre franchissait un seuil. Elle cessait d'être une enquête criminelle classique pour devenir une énigme métaphysique. Quand un homme disparaît, jusqu'où son absence peut-elle contaminer ce qui reste ? Le fax reçu en mai 2002 plongea l'enquête dans une zone encore plus obscure. La répétition de la phrase, la précision de la date. Tout ressemblait à une provocation, une pièce ajoutée à une mise en scène dont la police n'était plus spectatrice mais victime. Certains enquêteurs y virent une simple farce, l'œuvre d'un imitateur fasciné par le mystère de l'ambre. Mais d'autres, plus lucides, comprirent immédiatement « On ne joue pas avec ce genre de mots au hasard ». Derrière ce nouvel envoi, il y avait une intelligence froide, une volonté de rappeler que l'histoire n'était pas terminée, que le rideau n'était pas tombé. Le commissaire en charge du dossier ordonna de renforcer la surveillance autour de la famille Delambre. On craignait qu'un événement survienne à la date annoncée, qu'Elisabeth ou l'un de ses proches devienne la cible d'un second acte. Mais les jours passèrent dans une tension insupportable. Le 14 novembre 2002, la ville entière semblait retenir son souffle. Les policiers patrouillaient aux abords du pont Lafayette, fouillaient les hôtels, interrogeaient les témoins. Rien. Aucun événement majeur, aucune disparition. Juste ce silence étrange, ce poids qui écrase comme une menace invisible. Pourtant, le fax avait accompli sa mission. Il avait ranimé la peur, rappelé que l'ombre de Marc flottait toujours au-dessus de Lyon. C'est à ce moment-là qu'un nouvel élément inattendu surgit. Dans un entrepôt abandonné de la périphérie, les gendarmes découvrirent par hasard, lors d'une opération sans lien avec l'affaire, une pièce murée. À l'intérieur, quelques objets recouverts de poussière, une chaise, un téléphone hors d'usage et surtout un tas de papier brûlé à moitié. Parmi ces cendres, on put reconstituer partiellement une feuille portant le nom de Marc Delambre, accompagnée d'une série de chiffres alignés comme un code comptable. Était-ce un lieu où il avait été retenu, ou simplement une cache utilisée par ceux qui avaient orchestré sa disparition ? Les enquêteurs prirent alors conscience d'une réalité glaçante. L'affaire de l'ambre n'était peut-être pas une énigme à résoudre, mais un piège à ciel ouvert. Chaque indice n'était pas une réponse, mais une provocation, comme si quelqu'un s'amusait à les guider dans un labyrinthe sans issue. Le mot « disparu » devenait ici une arme, une façon de tenir en haleine, de manipuler non seulement la famille, mais aussi la police, la presse, l'opinion. Dans ce brouillard, Une certitude pourtant s'imposait. Mark avait anticipé quelque chose. Ses notes, ses avertissements, ses rendez-vous secrets prouvaient qu'il savait qu'un danger approchait. Mais avait-il essayé de l'éviter ou avait-il voulu l'affronter ? Certains enquêteurs penchaient pour l'idée qu'il avait mis en scène sa propre disparition, espérant renaître ailleurs, sous une autre identité. Mais si tel était le cas, pourquoi laisser derrière lui ces traces inquiétantes, ces fragments de mise en scène qui ressemblaient plus à un enterrement symbolique qu'à une fuite ? La presse, encore une fois, amplifia l'affaire. Les gros titres parlaient désormais de « complot européen », de « disparition programmée », de « fantôme qui écrit son propre roman ». Les journalistes décrivaient Lyon comme une ville hantée par une absence, un théâtre où chaque rue, chaque pont, chaque hôtel devenait le décor d'un drame invisible. Les citoyens eux-mêmes s'habituaient à voir le visage de Marc placardé sur les murs, dans les journaux, à la télévision. Mais plus son image circulait, plus elle se vidait de substance. Marc cessait d'être un homme pour devenir un mythe, un symbole de l'époque troublée, où l'argent et le crime s'entremêlaient. Pendant ce temps, à Milan, une piste nouvelle apparut. Les enquêteurs italiens retrouvèrent l'un des anciens chauffeurs de Tecnologia Europa. L'homme, désormais brisé, accepta de parler sous couvert d'anonymat. Il raconta qu'en novembre 2001, il avait été chargé de transporter une valise lourde depuis un hôtel discret jusqu'au port de Gênes. Il ignorait son contenu, mais se souvenait d'un détail. « On m'a dit de ne pas ouvrir, juste de conduire, mais la valise bougeait comme si quelque chose ou quelqu'un était à l'intérieur. » Ces paroles, hésitantes, glacèrent les policiers. Était-il possible que Marc ait été transporté ainsi, réduit à une cargaison dans le flux anonyme des containers maritimes ? Cette hypothèse effroyable donnait un nouveau sens au mot « disparaître ». Dans le langage des réseaux criminels, « disparaître » signifiait parfois être fondu dans la masse, englouti par les flux de marchandises et d'argent, dissous dans une économie parallèle. L'homme n'était plus qu'un objet, un numéro de conteneur, une ligne effacée dans un registre. Au commissariat, certains commencèrent à douter de leur mission. Comment résoudre une affaire où le corps n'existait pas, où chaque indice ressemblait à une mise en scène ? Un policier murmura un soir, « Peut-être que le but n'est pas de trouver Marc, mais de nous perdre avec lui. » Et cette idée, à la fois terrifiante et fascinante, résonnait dans tous les esprits. Le temps passa. L'affaire se refroidissait officiellement, mais dans l'ombre, quelques enquêteurs continuaient de fouiller, refusant d'abandonner. C'est alors qu'ils découvrirent une correspondance oubliée, une série de fax envoyés par Marc quelques semaines avant sa disparition à une société basée à Zurich. Les messages, laconiques, contenaient des suites de chiffres et de lettres qui semblaient être des codes. Après de longues analyses, on réussit à déchiffrer une phrase répétée. Les plus proches ne sont pas ce qu'ils paraissent. Encore et toujours la même obsession. Tout indiquait que Marc avait été encerclé par une trahison. Mais de qui ? De ses partenaires étrangers ? De ses associés français ? Ou même de sa propre famille ? Les enquêteurs, obsédés par cette question, se perdirent dans des hypothèses contradictoires. Mais une vérité, aussi fragile que tranchante, s'imposait. Marc savait qu'il allait disparaître. Reste à savoir s'il l'avait accepté ou choisi. Et puis, une nuit d'automne 2002, une dernière énigme surgit. À la réception d'un hôtel du centre-ville, un fax arriva, encore une fois. Mais celui-ci portait un message différent, presque intime. « Je suis encore là. » Aucun numéro d'expéditeur, aucune signature, juste ces mots, tracés avec la même écriture nerveuse que le premier fax. Les policiers restèrent pétrifiés devant cette phrase. Était-ce Marc qui, d'outre-tombe, envoyait un signe ? Était-ce un manipulateur qui jouait avec eux, prolongeant l'angoisse ? La vérité se dérobait encore, mais une certitude naissait. Cette disparition n'était pas un simple crime, c'était une œuvre macabre, écrite à plusieurs mains, dont le dernier chapitre restait encore à venir. « Je suis encore là. » Ces quatre mots, sortis du néant par le biais d'un fax anonyme, frappèrent comme une gifle. Ils résonnaient dans le silence du commissariat comme la voix d'un fantôme revenu hanter ses propres enquêteurs. Certains policiers eurent la chair de poule en voyant cette phrase imprimée sur le papier thermique. le même style d'écriture, la même inclinaison nerveuse. Comme si Mark, disparu depuis plus d'un an, avait soudain repris la parole. Mais était-ce un message de survie ou une ultime manipulation? Les analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien du même papier à filigrane italien que celui du premier fax. La même source, la même main, ou du moins le même réseau. Cela signifiait que l'affaire n'était pas close, qu'un fil ténu continuait à relier Lyon à Milan, Zurich et au-delà. Mais pour les enquêteurs, le plus troublant restait le choix des mots. Pas « je suis vivant », pas « aidez-moi », seulement « je suis encore là ». Comme si l'existence de Marc se réduisait désormais à une présence spectrale, à une trace qui refusait de s'effacer. L'impact sur Elisabeth fut dévastateur. Lorsque la police lui montra le fax, elle s'effondra. Ses larmes tremblaient entre soulagement et effroi. Elle répéta à voix basse « C'est lui, c'est son style, c'est exactement ce qu'il aurait écrit. » Mais cette conviction n'apaisait rien. Au contraire, elle rouvrait toutes les blessures. Si Marc était encore en vie, pourquoi ne revenait-il pas? Pourquoi se contenter de jouer avec les nerfs de ceux qui l'attendaient? Était-il prisonnier ou complice de son propre effacement? La presse, bien sûr, s'empara de l'événement. Les journaux titrèrent « Le revenant de Lyon, de l'ambre parle depuis l'ombre. » Fantôme ou imposteur? La ville tout entière se mit à frissonner sous cette rumeur. Certains affirmèrent l'avoir croisé à Genève, d'autres à Barcelone. Les témoignages affluaient, contradictoires, invérifiables, l'absence devenait une multitude de présences fantasmées. Marc était partout et nulle part. Les enquêteurs décidèrent de suivre la piste technique. Le fax avait été envoyé depuis une ligne téléphonique publique située dans une gare désaffectée de Milan. Sur place, la police italienne ne trouva qu'un appareil vétuste, encore tiède, abandonné comme une coquille vide. Aucun témoin, aucune caméra. Seulement la certitude que quelqu'un voulait maintenir l'illusion de la survie. À ce stade, l'affaire Delambre ressemblait de moins en moins à une enquête criminelle classique. C'était une guerre psychologique. Chaque indice n'était pas une clé, mais une morsure. Chaque trace redonnait espoir pour mieux plonger dans le désespoir. On commençait à parler, dans les cercles policiers, de disparition active. Un processus où l'absence n'est pas une conséquence, mais une stratégie. Marc Delambre n'était plus seulement disparu. Il était devenu l'architecte de sa propre légende, volontairement ou malgré lui. Un soir de novembre 2000, presque un an jour pour jour après l'évaporation de Marc, un détail bouleversa encore le cours de l'affaire. Un agent, en consultant des archives bancaires suisses, tomba sur un virement récent effectué depuis le compte offshore attribué à Marc. Le montant était minime, presque symbolique, mais le geste avait valeur de signature. Le compte n'était pas mort. Quelqu'un, quelque part, continuait à l'utiliser. Était-ce Marc lui-même, ou un réseau exploitant son identité comme une coquille vide? Les policiers savaient que cette piste pouvait être décisive. Mais en cherchant à remonter le transfert, ils ne trouvèrent qu'un brouillard de sociétés écrans, de prête-noms, de codes cryptés. Comme toujours, chaque pas en avant ouvrait sur un abîme plus profond. On commençait à se demander si l'affaire Delambre avait une fin possible, ou si elle était condamnée à se répéter indéfiniment comme une boucle infernale. Elisabeth, de son côté, sombrait dans un état quasi hallucinatoire. Elle affirmait recevoir des signes. Un soir, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo récente d'elle, prise à son insu, dans la rue. Au dos, deux mots tracés d'une écriture tremblée. « Regarde derrière. » Elle en fut terrorisée. Était-ce Marc qui lui envoyait ce message? Ou bien ses bourreaux qui continuaient à la torturer psychologiquement? La frontière entre réalité et manipulation se brouillait, la plongeant dans une paranoïa douloureuse. Les enquêteurs eux-mêmes étaient contaminés par ce climat. Certains rêvaient de Marc la nuit, d'autres entendaient son nom comme un écho dans les couloirs vides du commissariat. Un inspecteur nota dans son journal « L'affaire Delambre n'est pas une enquête, c'est une infection. Elle se propage dans nos esprits, elle ronge nos certitudes, elle efface la ligne entre vérité et mensonge. » À Milan, une nouvelle source anonyme livra une confession troublante. Elle affirma que Marc avait participé à une réunion clandestine en octobre 2001, un mois avant sa disparition. Au cours de cette réunion, il aurait proposé un marché impossible. Disparaître volontairement pour protéger certains secrets en échange de la survie de sa famille. L'informateur, dont la fiabilité restait douteuse, parlait d'un « pacte de silence » passé entre Mark et ses partenaires. Mais si tel était le cas, pourquoi les fax, pourquoi les indices disséminés comme des cailloux dans une forêt obscure? C'est alors qu'une hypothèse vertigineuse émergea. Et si Mark avait sciemment orchestré son effacement, mais que ses ennemis avaient décidé d'en faire un spectacle macabre? Chaque objet retrouvé, chaque message n'aurait pas été laissé par lui, mais par ceux qui contrôlaient son absence, comme pour transformer sa vie en légende noire. Une manière de rappeler au monde que personne n'échappe à leur pouvoir. L'automne avançait, et Lyon semblait sombrer dans une atmosphère de roman noir. Les façades blanchies de la presqu'île, les quais embrumés, les cafés aux lumières jaunies. Tout devenait décor d'un drame invisible. Les citoyens parlaient de Marc comme d'un spectre. Certains affirmaient entendre ses pas dans les couloirs de la Part-Dieu, d'autres disaient avoir vu son reflet dans les vitres des immeubles vides. La ville tout entière se transformait en théâtre hanté. Et puis, un soir de décembre 2002, la police reçut un dernier signal. Un fax encore, cette fois pas une phrase. Juste une photo en noir et blanc. On y voyait une silhouette masculine, floue, marchant dans une rue déserte. À l'arrière-plan, une enseigne lumineuse permettait d'identifier le lieu, Zurich. La date indiquée par l'appareil était récente. La silhouette ressemblait à Marc, mais elle était trop floue pour être affirmée. Était-ce une preuve de vie ou un ultime leurre destiné à prolonger l'énigme? La photo en noir et blanc, reçue par fax au commissariat, pesa comme un couperet. Une silhouette dans une rue de Zurich, marchant seule sous la lumière blafarde d'une enseigne. Trop floue pour être identifiée formellement, mais assez précise pour réveiller les obsessions. Était-ce Marc Delambre, enfin réapparu, ou bien une ombre projetée pour entretenir le mythe? Les enquêteurs fixaient cette image comme on fixe une icône. Plus ils la contemplaient, plus elle semblait changer de forme, plus elle échappait à toute certitude. Zurich devint le nouveau centre de gravité. Les autorités suisses furent contactées, les caméras de surveillance du quartier passaient les hauts cribles. Mais aucune trace de cette silhouette. La photo semblait surgir d'un espace hors du temps, comme si elle avait été prise uniquement pour hanter les policiers. Le doute, une fois de plus, se referma sur eux comme une mâchoire. Elisabeth, en apprenant la nouvelle, bascula dans une mélancolie abyssale. Elle contemplait la photo chaque soir, cherchant dans l'ombre floue le contour familier de son mari. Elle murmurait « C'est lui, je le sens ». Mais plus elle s'en persuadait, plus la douleur grandissait. Car si c'était bien Marc, pourquoi se contenter de laisser une trace fantomatique? Pourquoi ne pas revenir? Pourquoi prolonger ce supplice? Elle finissait par admettre à voix basse « Peut-être qu'il ne nous appartient plus ». Peut-être qu'il appartient désormais à ceux qui l'ont fait disparaître. Ah ! Les enquêteurs, usés, savaient qu'ils ne retrouveraient jamais Marc par des moyens classiques. Il n'y aurait pas de corps, pas de scène de crime clair, pas de coupable désigné. Tout ce qu'ils avaient, c'était une suite de symboles. Une mallette noyée, une montre déposée, une chemise pliée, des fax comme des oracles. Chacun de ces objets formait les fragments d'un récit, mais le récit n'avait pas d'auteur unique. Était-ce Marc lui-même, tirant les ficelles de son absence? Étaient-ce ses ennemis, transformant sa vie en spectacle, ou la société entière, avide de mystères, construisant autour de lui une légende? Le dossier officiel, pourtant, devait avancer. En 2003, faute de preuves tangibles, la justice française classa l'affaire Delambre comme ses disparitions inquiétantes non élucidées. Trois mots froids, pour un gouffre sans fond. Les enquêteurs sentirent une amertume brûlante. Ils avaient été entraînés dans un labyrinthe sans sortie, où chaque couloir menait à un mur, mais dans leur regard restait la certitude que cette affaire dépassait le cadre judiciaire. Elle touchait à quelque chose de plus profond, de plus sombre, la manière dont une société peut être contaminée par un seul homme, disparu. Dans les années qui suivirent, d'autres indices surgirent sporadiquement. Un témoin affirma avoir croisé Marc à Lisbonne, un autre à Istanbul. Des fax continuaient à arriver, toujours plus rares, toujours plus ambiguë. Une fois, simplement une feuille blanche avec, en bas, une phrase en italien. La verità non interessa. La vérité n'intéresse pas. Comme si celui qui écrivait avait abandonné l'idée même de justice. Les policiers, encore obsédés par l'affaire, notaient chaque fragment, mais sans parvenir à les relier. Le temps passait, et Marc devenait de plus en plus un mythe. On racontait son histoire dans les dîners, dans les bars enfumés, comme une légende urbaine. L'homme qui avait disparu par un fax. Certains en faisaient un symbole de l'avidité punie, d'autres un martyr des réseaux criminels internationaux. Son nom ne désignait plus un individu, mais une énigme. Et pourtant, derrière le mythe, il restait une vérité brute. Une famille est détruite, une femme condamnée à attendre indéfiniment, des enquêteurs rongés par l'échec. C'est là que l'affaire de Lambre prenait toute sa dimension tragique. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme disparu, mais le miroir de la fragilité humaine face à des forces qui la dépassent. Un rappel que la vérité, parfois, n'existe pas comme une lumière claire, mais comme une ombre mouvante qui échappe sans cesse. Un policier à la retraite, des années plus tard, raconta cette phrase à un journaliste. Dans l'affaire de Lambre, nous avons compris que la disparition n'était pas une fin, c'est une arme. Cette phrase résonna comme un testament, car c'était bien cela que Marc, volontairement ou non, avait laissé derrière lui. La preuve que disparaître peut être plus puissant que vivre, plus terrifiant que mourir. Le 14 novembre 2011, 10 ans après la nuit fatale, une dernière rumeur secoua Lyon. Une gerbe de fleurs anonymes fut déposée au pied du pont Lafayette. Pas de nom, pas de carte, juste un ruban noir où l'on pouvait lire en lettres argentées « Ce soir, tout doit disparaître ». Ce geste glaça ceux qui le virent, car il montrait que, même après une décennie, l'affaire continuait à vivre dans les ombres, que Marc, ou ceux qui l'avaient fait disparaître, n'avaient pas cessé de contrôler le récit, et que le mythe des Lambres, loin de s'éteindre, se nourrissait du temps qui passe. Alors, la question ultime demeure, suspendue comme une lame au-dessus de cette histoire. Marc de Lambre, est-il mort, exécuté par les réseaux qui l'avaient défié ? A-t-il survécu, tapi sous une nouvelle identité, orchestrant encore son absence ? Ou bien est-il devenu ce que beaucoup redoutaient, une légende sans corps, un fantôme fabriqué pour rappeler que le pouvoir ne réside pas dans la vérité, mais dans le contrôle de l'ombre? Le Rhône continue de couler, indifférent, charriant ses secrets. Les fax jaunissent dans les archives, témoins d'une époque révolue. Mais l'écho, lui, persiste. Chaque fois qu'un téléphone sonne dans la nuit, chaque fois qu'un document surgit par erreur dans un bureau, on repense à lui. À cet homme qui a disparu un soir de novembre 2000 et qui, d'une certaine manière, n'a jamais cessé de hanter ceux qui l'ont cherché. Dans cette affaire, il n'y a pas de vérité définitive, seulement un silence qui se prolonge, une absence qui se transforme en présence et le murmure obsédant d'un fax qui répète encore et encore « Ce soir, tout doit disparaître ».